Natacha Polony est avec nous, bonjour. Merci bonjour. Beaucoup d'accepter cette interview alors qu'on est ici au top départ des Assises du numérique qui sont organisées par le DigiWorld Institute. Natacha Polony, essayiste, autrice aussi de cet ouvrage que je tiens entre les mains et que vous voyez, La France corps et âme, paru chez Plon tout récemment. On vous prête d'ailleurs des ambitions sur 2027, mais vous avez dit que ce n'est pas le moment d'en parler.
C'est surtout que les ambitions qu'on peut se permettre d'avoir, ce sont des ambitions intellectuelles, idéologiques, politiques pour la France. C'est-à-dire simplement mettre au cœur du débat les sujets qui sont essentiels. Le reste, honnêtement, ça n'a rien à faire là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on va faire pour ne pas rater les débats des années et des décennies à venir. Donc j'essaye de participer à la chose publique de cette façon-là.
Allons-y, donc partons sur le fond, qui est évidemment beaucoup plus intéressant. Vous êtes pour la deuxième fois, c'est la deuxième édition à laquelle vous participez des Assises du numérique. Ce discours autour de la souveraineté, de l'indépendance de l'Europe en matière de technologie, on l'entend de plus en plus fortement, y compris dans les discours politiques. Est-ce qu'il vous semble pour autant que l'Europe, la France, ont pris la mesure des enjeux ?
Alors, je peux déjà me réjouir qu'on puisse prononcer ces mots souveraineté, réindustrialisation, production. Ça n'était pas le cas il y a encore peu de temps. C'est-à-dire que tout le monde se contrefichait de voir la France et l'Europe devenir des terres de consommation pure avec une déperdition de l'ensemble de la machine productive. D'ailleurs, pour l'instant, on en est au stade des mots, mais pour ce qui est de la réalité, la mesure n'a absolument pas été prise. Je prends Je prends un exemple. Au mois de janvier, Sir Radcliffe, le patron d'Ineos, donc 9e groupe mondial de chimie, était au sommet des industries chimiques en Europe et il alertait sur le fait que depuis février 2024, l'Europe a perdu 101 sites de production d'industries chimiques. C'est l'équivalent de 25 millions de tonnes de capacités qui ont disparu, 70 000 emplois. Et ce qu'il expliquait, c'est qu'il faudra 70 milliards pour recréer ces emplois. Donc on ne le fera pas.
Combien d'années ?
Exactement.
Parce qu'en plus, on est sur un temps long dans l'industrie.
Et évidemment, derrière, si vous n'avez plus d'industrie chimique, vous n'avez plus d'industrie automobile, vous n'avez plus d'industrie pharmaceutique, vous n'avez plus d'industrie d'armement. Il faut être lucide. Ouais. C'est-à-dire, tout cela est une chaîne. Donc entre le moment où on commence à prononcer le mot souveraineté dans les discours politiques et le moment où on prend les mesures réelles, hélas, il se passe beaucoup trop de temps.
Est-ce qu'on prend quand même des décisions, semble-t-il, justifiées au niveau politique ? Est-ce qu'on va dans le bon sens ? Je crois que vous avez quand même une vision assez critique de l'Europe.
Il y a eu une tentative, par exemple, de Stéphane Séjourné, donc vice-président de la Commission européenne, pour mettre en avant la préférence européenne en matière de commande publique.
Oui.
Ce qui est une excellente initiative. Il faut quand même rappeler qu'en 1957, quand le traité de Rome a été signé, l'idée de l'Europe, c'était quoi ? Un marché de 6 pays à peu près homogènes économiquement et qui pratiquerait la préférence communautaire, tout simplement. C'est-à-dire que dans un marché fermé à l'extérieur, on libéralisait, on échangeait les excédents et tout le monde s'enrichissait. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'est l'Europe aujourd'hui, qui est la zone la plus ouverte économiquement au monde. Et là, le malheureux Stéphane Séjourné a donc essayé de mettre en avant la préférence européenne. Le reste de la Commission a immédiatement retravaillé le texte pour mettre en avant un élément. D'accord, préférence européenne, mais on inclut tous les pays qui ont des traités de libre-échange avec l'Europe. Donc en gros, la préférence européenne, ça permet d'acheter des produits mexicains, des produits vietnamiens. C'est quand même une vision assez baroque de la défense de la production sur le sol européen. Et bon, évidemment, tout cela part en eau de boudin, on le sait très bien. Mais pourquoi ? C'est pas le tout de le dire. Il faut comprendre exactement les mécanismes. Ce qui se joue, c'est le fait que les économies divergent en Europe. De plus en plus. Pourquoi ? Parce que la construction européenne a dévié de son objectif premier, qui était de s'enrichir mutuellement, au profit d'une vision assez dogmatique qui s'appuyait sur le libre-échange généralisé, l'extension des chaînes de valeur. Et tout cela a été fait au forceps, sans harmoniser ni la fiscalité, ni le droit social. Donc nous avons des économies qui divergent massivement. Et dans ce cadre-là, vous avez des modèles économiques différents. Et le problème, c'est que, par exemple, notre voisin allemand a un modèle économique qui est fondé sur les exportations. Donc quand il s'agit de discuter droit de douane avec Donald Trump, eh bien l'Allemagne n'a qu'un objectif, éviter la guerre commerciale pour préserver ses exportations. quitte à abandonner tout le reste. Et donc on se retrouve avec un accord, celui de Sunbury, qui est totalement contraire aux règles les plus fondamentales de l'OMC. Mais ça ne dérange personne.
Alors justement, vous parlez de ces journées, vous parlez de l'Allemagne. C'est fini le couple franco-allemand, il vous semble, alors, sur cette question de la souveraineté?
Le problème, c'est que si vous allez en Allemagne et que vous cherchez la traduction du mot couple franco-allemand, vous ne la trouvez pas.
Oui.
Ça n'existe pas. Il n'y a que les Français qui pensent en termes de couple franco-allemand. Ça ne veut pas dire... Vous voyez, soyons clairs. La réconciliation franco-allemande après la Seconde Guerre mondiale est un pas absolument extraordinaire pour l'Europe. C'est fondamental. Vous imaginez ce que c'était pour des gens qui s'étaient entretués dans des conditions absolument atroces quelques années avant. Et quand De Gaulle et Adenauer signent le traité de l'Elysée, en fait, c'est une œuvre politique immense. Le problème, c'est qu'eux ont voulu, avec le traité de l'Elysée, une Europe européenne, indépendante. Et en fait... Ce qui s'est passé, c'est que Ludwig Erhard, qui était le successeur d'Adenauer à la CDU, à la tête de la CDU, et qui était d'un atlantisme forcené, a torpillé le traité de l'Elysée en faisant ajouter, lors de la ratification devant le Bundestag, un petit codicille disant « Bon, ce traité est très bien, mais il doit rentrer dans le cadre des traités existants, donc de l'OTAN, et il a torpillé l'idée d'une Europe européenne. » Et nous vivons là-dessus, c'est-à-dire la difficulté à arrimer l'ensemble des pays européens à cette idée d'indépendance qui est pourtant essentielle, mais que nous, Français, nous avons hérité du gaullisme. Mais c'est un hasard de l'histoire.
Alors, il n'y a pas que l'Allemagne dans l'Union européenne. Est-ce que la France est isolée? Est-ce qu'elle porte une parole, il vous semble, particulière sur ce sujet de la souveraineté?
La France a une histoire qui lui permet de porter une vision essentielle aujourd'hui pour la liberté des citoyens des pays européens. C'est-à-dire que l'idée que nous nous faisons de l'indépendance, je le disais, c'est hérité du gaullisme.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe est occupée. L'Allemagne, l'Italie sont dans le camp des perdants et sont occupés par les États-Unis. Normalement, nous aurions dû faire partie de cela. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que quand les Allemands viennent signer la capitulation, ils disent « mais enfin, c'est pas possible, même les Français sont là, c'est quand même dingue ». Ils ne s'y attendaient pas, on avait vocation à être dans le camp des perdants. Et c'est De Gaulle qui joue cette carte extraordinaire, c'est-à-dire qu'il prend de vitesse les Américains pour défendre l'indépendance de la France. Ça veut dire que derrière, nous avons perpétuer cette indépendance, notamment à travers l'arme atomique, le plan Messmer pour l'indépendance énergétique au moment où nous en avions besoin, l'indépendance en matière aéronautique, et tout ça, ce sont des briques qui ont constitué aujourd'hui la solidité de la France, et je pense que pour le reste de l'Europe, ce serait absolument nécessaire. Le problème, c'est que nous sommes prêts, hélas, trop souvent, à abandonner cet avantage-là au nom du mythe du couple franco-allemand, de l'idée qu'il faut absolument faire l'Europe à quelque prix que ce soit, en oubliant que si ce n'est pas une Europe indépendante, ça n'a pas d'intérêt. Et derrière, nous n'arrivons pas à combattre le lobbying américain qui est quand même extrêmement puissant.
Parce qu'en matière de numérique et de technologie, on ne l'a pas vu, ça, cette indépendance, en tout cas ce souci d'indépendance y compris en
vous
France.
Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que le numérique prend son essor au tournant des années 1970, quand même, les technologies de communication se développent à cette vitesse-là, à ce moment-là, au moment même où, en France, on abandonne cette idée de souveraineté et où vous avez des élites politiques qui, au contraire, adhèrent au néolibéralisme, au dogme du libre-échange et donc à la dérégulation généralisée. C'est ça le problème. Alors même que si vous regardez ce qu'était le plan calcul de De Gaulle,
ouais,
c'était l'idée de souveraineté en matière d'ordinateur. Il avait prévu déjà. Et derrière, nous étions en avance. Nous avons créé la puce, la carte à puce. Nous avions le Minitel. Nous avons énormément de choses qui montrait que nous avions les ingénieurs capables de concevoir les outils du futur. Et en fait, nous nous sommes désarmés progressivement.
Il y a un problème de confiance finalement aussi dans nos forces, nos ressources. Et en matière de numérique, c'est beaucoup ce qu'on entend du côté de l'écosystème. Qu'est-ce qu'elle doit faire aujourd'hui, la puissance publique, pour aider un peu à reprendre la main sur ce sujet?
La puissance publique doit déjà utiliser les armes qu'elle a. Et par exemple, cet outil absolument gigantesque qu'est la commande publique, 8% du PIB en France. Or, quand vous avez, par exemple, l'éducation nationale qui signe des contrats avec Microsoft, je ne pense pas que ce soit une manière intelligente d'utiliser l'argent des contribuables. Et au moment où ça a été fait, ça date, le premier contrat de 11 milliards est sous François Hollande, ça a détruit tout l'écosystème français qui commençait à se mettre en place de logiciels pédagogiques indépendants. Donc c'est une absurdité. Et depuis, on continue.
On a vu l'Allemagne choisir une entreprise française, ChapVision, face à Palantir. Alors que,
Nous, on utilise Palantir, voilà, c'est quand même formidable. Ce qui signifie que nous avons encore énormément de travail à faire pour prendre conscience de ce que c'est véritablement que l'indépendance. Encore une fois, il ne s'agit pas de s'enfermer dans des frontières, il s'agit de comprendre que dans le monde qui vient, qui est un monde brutal, qui est un monde de concurrence entre puissances, où vous avez une guerre pour les matières premières et les technologies critiques qui est en train de se mettre en œuvre. Et bien dans ce monde-là, si nous ne préservons pas notre capacité à produire, à créer, à inventer, donc notre outil industriel et technologique, nous serons tout simplement des vassaux. C'est-à-dire que ce qui est en train de nous arriver en matière technologique, c'est que nous sommes des purs consommateurs. Et le problème, c'est que l'Europe a été conçue pour ça. L'Europe telle que nous la connaissons, c'est-à-dire à partir de l'acte unique de 86. C'est une Europe qui considère que la norme crée le marché et que donc, en décidant de la norme, on va garantir la liberté puisqu'on pourra décider quels sont les produits qui vont rentrer et donc orienter la façon dont ces produits sont faits. Sauf que quand on a une puissance comme les États-Unis qui dit « mais vos normes, je m'assieds dessus, je suis le plus fort et je vais vous interdire de réguler les GAFAM », bien si on n'a pas préservé son outil de production, de toute façon on est pieds et poings liés. Regardez, quand vous avez l'administration américaine qui force Microsoft a coupé les boîtes mail de juges à la Cour pénale internationale parce qu'ils ont lancé une enquête contre Benjamin Netanyahou pour crime de guerre. Mais vous vous rendez compte ?
Ça devient très concret.
Ça veut dire, en effet, la notion de kill switch qui est reparue là dans le débat public, elle devrait être dans toutes les têtes. C'est-à-dire en matière numérique, en matière d'armement. Je veux dire, si on ne prend pas conscience que d'avoir des F-35 dans toutes les armées européennes, ça veut dire que le jour où il y a une guerre, il faut demander l'autorisation du Pentagone pour faire décoller des avions, on aura perdu. Donc la souveraineté, ça n'est pas un concept abstrait, c'est extrêmement concret.
Et on parle de souveraineté européenne, on est bien d'accord.
Alors, bien
c'est
entendu,
quand même à cette échelle-là.
Oui, mais attention, indépendance européenne.
Okay.
Ce qui signifie quoi ? Pourquoi je dis indépendance européenne ? Parce que, en fait, la souveraineté, ça signifie la capacité à décider pour soi-même en dernier ressort. Donc, c'est la définition même de la démocratie. C'est-à-dire qu'en démocratie, ce sont les citoyens qui décident pour eux-mêmes. Et nous avons décidé de nous associer, de nous allier entre pays européens pour être plus puissants. Parce que de fait, tout seul, on n'a pas la taille critique. C'est une folie de croire que la France toute seule, l'Italie toute seule pourrait exister. Ce n'est pas le problème. Donc nous avons un marché européen qui devrait nous permettre la puissance. Mais si nous ne réfléchissons pas en termes d'indépendance dans les domaines qui relèvent des enjeux vitaux, nous ne pouvons pas assurer cette puissance. Quels sont les enjeux vitaux ? L'alimentation, l'énergie, c'est la base. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez rien. Ensuite, le numérique, aujourd'hui, c'est indispensable. Le militaire et, dans un monde idéal, le financier et la monnaie. Or, nous n'avons jamais cherché à faire de l'euro une monnaie de réserve et une monnaie internationale. Donc vous voyez, ce travail est à faire, à conquérir. Il ne peut pas se faire sans les peuples. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion, sur l'idée que la souveraineté se confond avec la démocratie. On a besoin des citoyens.
Natacha Polony, je suis vraiment ravie parce qu'il y a tellement peu d'éditorialistes aujourd'hui qui s'emparent de ces sujets technologiques et numériques. C'est un grand plaisir de vous avoir reçu dans Smartech.
Merci
encore.
Merci à vous.
Et donc je rappelle votre livre que je vais tenir à l'endroit. Alors La France, corps et âme, paru chez Plon.
Merci beaucoup.
Natacha.